Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Bonne journée à tous à l'écoute d'RTL, il est 7h43. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Laurence Rossignol, le ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes.
Bonjour Laurence Rossignol.
Bonjour.
D'abord, merci d'être avec nous ce matin dans ce studio d'RTL. La campagne à 3 semaines du premier tour, Jean-Luc Mélenchon, qui a pris plusieurs points d'avance sur Hamon dans les sondages, il a tué le match à gauche, Jean-Luc Mélenchon.
Non, à 3 semaines de l'élection, surtout celle-ci, il n'y a aucun match qui est déjà plié. Et Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, gagne incontestablement le premier prix du concours d'éloquence.
C'est d'abord son talent de tribunicien qui lui vaut ça, ou c'est son programme, les deux?
Je crois qu'il y a d'abord son talent de tribunicien. Les gens sont sensibles à son verbe. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, il nous rappelle une grande époque, une belle époque de la politique, où les orateurs étaient talentueux. Mais il y a aussi dans cette nouvel intérêt que suscite Jean-Luc Mélenchon, peut-être un signal un peu inquiétant à gauche, c'est-à-dire c'est une gauche qui a renoncé à gouverner, celle qui suit Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une gauche qui considère que dans cette élection présidentielle, il faut témoigner, prendre date, créer les conditions du rapport de force pour les luttes de demain. Et donc c'est une gauche qui se projette déjà dans l'opposition. Et moi j'appelle les électeurs de gauche aujourd'hui à ne pas renoncer à gouverner, ne pas renoncer à la gauche qui gouverne, qui est celle qu'on a construite progressivement au cours des 30 dernières années, qui a gouverné.
Mais Benoît Hamon, il incarne la gauche qui a gouverné ? Lui qui a tellement justement contesté le gouvernement ?
Benoît Hamon, il incarne une gauche qui a gouverné, peut-être par moments à son corps défendant, mais il est le porteur d'une histoire qui n'est pas simplement celle de la primaire de 2017. Il est le porteur d'une gauche, effectivement, qui a gouverné à plusieurs reprises. Il est inscrit dans cette histoire et après lui... Après cette campagne présidentielle, cette histoire va continuer. Oui, c'est pour ça que moi je soutiens Benoît Hamon.
Je reste sur Benoît Hamon, précisément. Pourquoi est-ce qu'il n'incarne plus la gauche ?
Non, Benoît Hamon incarne la gauche.
Pourquoi
aujourd'hui, toujours son programme est de gauche,
c'est un candidat
de gauche.
Pardon, pourquoi est-ce que Mélenchon incarne plus la gauche que lui ?
Parce qu'aujourd'hui, à gauche, les deux candidats sont des candidats, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, qui ont pris beaucoup de distance pour Benoît Hamon et beaucoup de critiques en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon à l'égard du quinquennat. Et qu'aujourd'hui, ce que révèle probablement cette campagne, c'est que pour gagner, pour réussir, on ne peut pas tourner le dos à ce qui a été fait pendant 5 ans. On peut avoir une lecture critique, on peut dire là où on s'est trompé, mais il faut dire aussi là où on a réussi. Parce que si on n'est pas capable de dire aux électeurs qu'une gauche qui gouverne, c'est aussi une gauche qui réussit, une gauche qui est capable de faire sa propre réflexion sur les erreurs qu'elle a faites, et il faut les partager avec les électeurs, ces réflexions. Mais si la gauche n'est pas en situation de gouverner, si elle ne dit pas qu'elle est candidate pour gouverner, alors les électeurs vont choisir effectivement la gauche d'opposition. Donc aujourd'hui, moi je dis aux électeurs de gauche, à ceux qui sont venus voter à la primaire, à ceux qui sont venus voter pour Benoît Hamon à la primaire, que maintenant ils doivent faire campagne pour le candidat issu de la primaire, et qu'on ne doit pas renoncer pour une durée dont on ne connaît jamais la durée, qui peut être bien plus longue qu'on ne le croit, à être dans l'action, dans la réforme, dans la transformation de la société.
Alors ça, ce sont vos conseils, vous les avez déjà proférés d'ailleurs il y a quelques semaines en vain, à Benoît Hamon, il reste 3 semaines de campagne. Vous étiez valsiste pendant la primaire, vous avez ensuite soutenu Benoît Hamon, vous le faites aujourd'hui, ça veut dire que vous voterez Benoît Hamon au premier tour.
Oui, j'ai soutenu Manuel Valls dans la primaire, en effet. Je ne sais pas si je peux me qualifier comme valsiste, mais bon, je soutiens Manuel Valls.
J'étais venu ici à ce micro, d'ailleurs, plusieurs fois.
Plusieurs fois, j'ai fait campagne dans la primaire pour le candidat Manuel Valls, parce que le bilan que j'ai tiré de son action de Premier ministre, c'était la crédibilité, la capacité à gouverner. Je pense qu'il avait les qualités pour la fonction présidentielle, il les a toujours probablement, mais ce n'est pas l'enjeu de cette élection aujourd'hui. Et ensuite, j'ai décidé de soutenir le candidat qui était issu de la primaire, pour une raison assez simple en fait. Je crois que la recomposition est ouverte aujourd'hui, elle est en marche dans ce pays, pardonnez-moi cette expression, elle est malheureuse. La recomposition va se faire. La recomposition va se faire. Les Français la veulent. Et la question qui est posée pour moi, c'est comment la recomposition peut se faire avec une gauche la plus forte possible. Et le premier tour de la présidentielle, c'est le moment où nous dirons quelle est la valeur et la hauteur de la gauche. Donc je souhaite que la gauche soit haute au premier tour de la présidentielle pour que la recomposition qui se fera inéluctablement, la politique ne s'arrêtera pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Après, il y aura une majorité parlementaire à désigner. Il faudrait mieux que la France s'épargne une crise politique, une crise parlementaire, à côté de la crise du terrorisme, à côté du terrorisme, à côté des défis qui sont devant nous. On a besoin de stabilité aussi. Et dans cette recomposition, on a besoin d'une gauche qui soit forte. Benoît Hamon porte des sujets que je ne méprise pas, en particulier toutes les questions d'écologie. Et il n'y a que lui qui les porte d'un point de vue d'une gauche gouvernementale. Et demain, je souhaite que ces sujets soient dans le débat politique.
La recomposition, on va en parler, mais je voudrais juste revenir sur Manuel Valls. Vous étiez mardi dernier au déjeuner au cours duquel justement l'ancien Premier ministre a annoncé son vote pro-Macron. Manifestement, il ne vous a pas, vous, convaincu. Vous lui aviez conseillé d'attendre. Vous comprenez sa démarche ?
Écoutez, c'est sa démarche. On n'avait pas tous le même agenda en la matière. Moi, je pense que... Il a fait ses choix, il a pris sa décision. Je n'ai pas pris la même. Pour autant, c'est l'histoire dira comment les choses vont évoluer.
Minable, tu nous fais honte, crime avec préméditation. Voilà, ce sont quelques-unes des amabilités qui ont été lancées à la tête de Valls après sa décision. C'est une violence justifiée.
Écoutez, moi, les procès en trahison dans l'histoire de la gauche, on en a beaucoup vu. Ils n'ont jamais été très utiles et c'est pas comme ça qu'on rassemble. Donc on peut dire, et je dis que je n'ai pas fait le même choix que Manuel Valls.
Il n'y a pas un manquement à la parole donnée par rapport à ce qu'il avait signé après la primaire ou pendant la primaire? Plus généralement, ça ne dévalue pas la parole politique?
Je ne crois pas que ça dévalue la parole politique. Je crois que la politique, ça change tout le temps. Ce n'est pas sympa. Les situations politiques évoluent de jour en jour. Manuel Valls a une analyse qui consiste à dire que le danger principal de cette élection présidentielle, c'est Marine Le Pen, et que ça se joue au premier tour de l'élection présidentielle. Je pense pour ma part que ça se jouera aussi au deuxième tour. C'est ce qui me fait penser aujourd'hui qu'il faut continuer de voter pour le candidat issu de la primaire de la gauche.
Au deuxième tour, vous appellerez à faire barrage au Front National ou vous direz qu'il faut voter pour le candidat Macron, Fillon, Mélenchon, qui sera qualifié?
J'espère qu'au deuxième tour, tout le monde appellera à faire barrage à Marine Le Pen. D'ailleurs, j'aimerais bien que...
Mais c'est pas pareil de dire...
Je vais y venir, je vais répondre à votre question. D'ailleurs, j'aimerais bien que François Fillon nous dise aujourd'hui ce qu'il va faire le soir du premier tour s'il n'est pas qualifié. À un moment donné, dans une campagne, on peut envisager toutes les hypothèses. C'est pas déjà avoir perdu que de dire si je ne suis pas au deuxième tour.
On lui a posé plusieurs fois la question. Voilà. Vous savez bien qu'il ne veut pas se placer dans cette
hypothèse. Oui, mais il
ne
veut pas répondre. Il ne veut jamais.
Vous pensez qu'il ne veut pas répondre parce que ça le gêne.
La droite ne veut jamais répondre à cette question puisque ce qu'ils ont développé au cours des dernières années, c'est le nini. Est-ce qu'ils vont encore faire le nini au soir du premier tour? Est-ce que M. Fillon va renvoyer dos à dos Marine Le Pen et le candidat qui sera face à elle? C'est une question très importante. Donc, pour revenir à votre question. Donc,
Non, mais je la précise. Ceux qui mettent sur le même plan, et ça a été le cas la semaine dernière, le manquement à la parole de François Fillon, justement, qui a renoncé à renoncer, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il avait dit si je suis mise en examen, je ne serai pas candidat, finalement. Il l'a été. Et Manuel Valls, qui signe de sa main une promesse et qui ne la tient pas. Ceux qui mettent sur le même plan ce manquement à la parole donnée, ça vous trouble ?
Je pense qu'on ne gagne pas une élection présidentielle. Je pense que cette élection présidentielle a un débat relativement toxique depuis le début. Et qu'aujourd'hui, tous les candidats devraient faire un effort pour élever le débat. Et qu'on gagne une élection en disant des choses utiles pour donner envie aux gens de voter pour soi. Et que le rôle d'un candidat à 3 semaines du premier tour, c'est de dire des choses qui vont donner envie aux électeurs de voter pour vous. Mmh. Et ce n'est pas en disant du mal des autres, de ses anciens amis. Et j'observe qu'il y a une violence terrible, parce que vous évoquiez à l'instant celle à l'égard de Manuel Valls, mais j'observe que dans les meetings de la droite, on siffle Christian Estrosi, qui était quand même un de leurs amis. C'était et qu'il est toujours, à ma connaissance, c'est toujours un président de région, Les Républicains.
Donc je pense que Estrosi, la poignée de main, entre parenthèses, ça vous paraît être une image toxique aussi, là aussi, non, pour Macron que... ou...
C'est à la fois de la communication, de la transgression, un peu tout ce qui fait le quotidien des campagnes présidentielles depuis déjà des nombreuses années. Voilà, de nombreuses années. Pour autant, j'ai cru comprendre que Christian Estrosi n'avait pas rallié Emmanuel Macron. Voilà, il l'a reçu, les gens se parlent. Ça me paraît parfaitement anecdotique, cette histoire-là.
Parenthèse fermée. Oui. Est-ce que le PS est mort la semaine dernière, comme on l'a dit, avec la décision de Valls d'apporter son soutien à Macron et de ne pas soutenir Hamon? Est-ce que l'ancien Premier ministre lui a porté le coup de grâce?
Non, je ne crois pas. Le PS a déjà vécu des moments difficiles. Ce qui est clair, c'est que le PS a devant lui des débats qui vont être sérieux après les élections présidentielles, une fois qu'il y aura un président de la République. comment on se comportera à l'égard de ce président de la République. Est-ce qu'on est pour la réussite ou l'échec? Est-ce qu'on est pour reporter à 2022 la menace du Front National? Ou est-ce qu'on est pour mener pendant 5 ans une politique qui permette de l'éloigner et de la réduire? Voilà, toutes ces questions-là, elles nous seront posées, à nous aussi les socialistes. Quel est notre rôle demain dans ce quinquennat, dans une France qui est dans une France qui va devoir être utile dans un monde extrêmement tendu.
Mais comment le PS survit à un score qui serait en dessous, par exemple, de 10% pour Benoît Hamon? Qu'est-ce qui se passe?
Écoutez, ce score de la présidentielle, est-ce qu'il sera à l'image, est-ce qu'il sera illustratif de ce qu'est vraiment le Parti Socialiste? J'en suis pas si sûre. Moi, je connais bon nombre d'électeurs socialistes traditionnels qui, cette fois-ci, vont voter pour d'autres candidats parce qu'ils ont peur du Front National, mais qui, pour autant, n'ont pas l'intention de rompre avec le Parti Socialiste. On est dans une séquence très inédite, extrêmement compliquée, et c'est pour ça qu'il faut la traiter avec beaucoup de responsabilité et beaucoup de sens du rassemblement.
On peut voter Macron et rester au Parti Socialiste.
C'est ce que souhaitent faire un certain nombre d'électeurs et même d'élus locaux. Aujourd'hui, j'en rencontre qui n'ont pas rompu avec le Parti Socialiste, mais qui ont un vote qui est un vote d'inquiétude, un vote barrage à Marine Le Pen. Je pense qu'on peut faire autrement. Moi, je fais autrement aujourd'hui. Oui. Et que demain, on pourra ensemble continuer de bâtir une politique de gauche.
Donc vous êtes d'accord avec Jean-Christophe Cambadélis, qui va présider ce soir un bureau national qui peut secouer, avec les amonistes qui réclament des sanctions et le fait que ceux qui vont chez Macron ne soient pas investis, par exemple, pour les législatives. Vous vous dites non? Il faut tenir tous les murs, essaye de le faire le Premier secrétaire.
Je crois que Jean-Christophe Cambadélis essaye effectivement de tenir une position rassemblement.
Pas de sanctions.
Je ne crois pas que la moindre sanction fasse gagner des voix à notre candidat. Voilà, pour gagner des voix dans les 3 semaines qui restent, notre candidat et nous-mêmes qui votons pour lui, devons exposer en quoi son programme est un programme utile à la France et utile à la gauche. Les sanctions contre les uns ou les autres ne rapportent pas une voix.
Les sanctions, les insultes ne rapportent pas une voix à Benoît Hamon, c'est votre conseil ce matin. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, Laurence Rossignol.
Une dernière question avant de nous séparer, Laurence Rossignol, puisque nous avons avec nous un membre du gouvernement. Faut-il doubler l'enveloppe pour la Guyane, comme le réclame désormais le collectif? 2,5 milliards au lieu d'un milliard.
Écoutez, je ne sais pas, j'ai découvert comme vous ce matin en me réveillant que les négociations n'avaient pas abouti aujourd'hui. Je ne suis pas dans le dossier et c'est un dossier dans lequel il y a plusieurs ministres qui sont investis. J'éviterai de prendre des engagements ou de faire des commentaires. Je fais confiance à mes collègues qui sont responsables de cette discussion.
Et une réunion autour du Premier ministre a lieu donc cet après-midi à 16h30. La gauche qui suit Jean-Luc Mélenchon est une gauche qui a renoncé à gouverner alors que Benoît Hamon est le seul à incarner une gauche de gouvernement. C'est pour ça que je le soutiens, nous a notamment dit la ministre des Familles, Laurence Rossignol, au micro d'Elisabeth Martichoux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr dans son intégralité.